À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois...
Stéphane Honoré-Rousseau, historien, il en faut.
Deuxième épisode, 14-18 en lumière. Bonsoir Stéphane Honoré-Rousseau.
Bonsoir.
Après avoir examiné dans le premier épisode l'ombre que la Première Guerre mondiale a fait porter sur votre famille, en particulier vos grands-pères, vos grands-parents même, et votre père, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de cette guerre dont vous avez fait l'objet de recherches depuis 40 ans. Vous avez même inspiré un personnage de roman à votre sœur, romancière, Fred Vargas. Dans Debout les morts, Lucien, et comme vous, un spécialiste de la Première Guerre mondiale, il a une mèche noire sur le front et il parle très bien. Vous avez choisi l'histoire à l'âge où vos grands-parents sont partis à la guerre, vers 20 ans. Vous avez passé l'agrégation d'histoire en 1980 et fait de 14-18 votre sujet d'étude. Votre thèse de doctorat de troisième cycle en 84 portait sur les mentalités des soldats français pendant la guerre de 14-18, d'après les journaux de tranchées, et vous l'avez passé sous la direction de Jean-Jacques Becker. Dans le récit de filiation dont on parlait hier dans la première émission, intitulé « Quelle histoire ?», vous montrez que la guerre a provoqué le silence dans les familles et dans les corps. Un silence lié évidemment au choc et un silence lié, vous l'expliquiez hier, à l'incompréhension de ce qui leur était arrivé. Est-ce que vous diriez que, en travaillant sur ce sujet tant d'années, vous avez voulu sortir la guerre du silence ?
C'est une très belle question que vous posez. Je serais peut-être moins radical aujourd'hui sur ce silence. Bien sûr, comme le dit peut-être encore Alain Corbin, c'est une formule que je lui emprunte, je considère Alain Corbin comme le plus grand historien actuellement vivant en France. Il disait, l'essentiel est toujours caché. Et évidemment, donc... la guerre, qui est une expérience physique, psychique, une expérience humaine essentielle pour ceux qui l'ont vécu, c'est toujours l'expérience la plus importante de leur existence, de même que c'est l'expérience la plus importante d'une société. Il est assez logique, du coup, que cet essentiel-là soit caché ou qu'une grande partie soit cachée ou que l'essentiel de ce qui s'est produit, que l'essentiel de l'expérience soit caché par ceux qui l'ont vécu, par ce qu'on appelle les acteurs sociaux. Néanmoins, je crois que c'est moins un silence de leur part qu'un défaut d'écoute de notre part. Leur silence est sans doute d'abord provoqué, exactement comme pour ceux qui sont revenus des camps de la Deuxième Guerre mondiale, provoqué par notre refus d'entendre. C'est ce refus d'entendre qui fait qu'ils gardent le silence puisque personne ne peut les écouter et les comprendre. Si j'ai raison, on peut donc forcer ce silence. On peut se forcer, si je puis dire, à écouter. Aujourd'hui, tous les soldats de la Grande Guerre sont morts, bien sûr. Néanmoins, ils ont laissé énormément de traces de leur expérience, traces écrites, objets, œuvres d'art, récits de souvenirs de toutes sortes. Enfin, ce corpus immense, énorme, les lettres, bien sûr, les carnets personnels qu'on continue à trouver, à exhumer, ce corpus gigantesque que personne n'arrivera jamais à saisir dans sa totalité, il suffit, si je puis dire, il suffit de le réinterroger à nouveau frais, par des angles nouveaux, pour forcer ce silence et essayer d'avoir accès à l'expérience de ces hommes, mais aussi de ces hommes, je pense aux combattants, mais aussi de ces femmes à l'arrière, de ces vieux à l'arrière dont on ne parle jamais, des enfants dont on parle depuis finalement assez peu de temps, enfin bref, de tous ces acteurs qui ont subi effectivement cette expérience matricielle du XXe siècle dont en France nous ne sommes pas encore sortis. Voilà. Alors, bien entendu, il n'empêche que cette dimension, il nous manquera toujours à un historien de ce type de sujet la dimension expérientielle de ce qui a été vécu. Néanmoins, c'est ce qui caractérise l'historien dans toutes les situations. En réalité, dans toutes les situations du passé, et je crois que l'on peut approcher d'assez près l'expérience, et non seulement qu'on peut, mais qu'on le doit. On le doit à ces gens-là, à ceux qui ont vécu cette expérience, et on se le doit bien sûr à nous-mêmes, et on le doit donc à la cité en quelque sorte.
Vous parlez d'angle nouveau, et c'est précisément ce changement de focale que tout le monde aujourd'hui, les historiens, les historiennes en premier, mais les lecteurs, les lectrices, les néophytes, que le commun des mortels, disons. Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que vous avez changé la focale sur la Première Guerre mondiale, que vous avez obligé les chercheurs à se positionner différemment et peut-être même à se positionner par rapport à vous. Alors, je vais essayer de formuler, on y reviendra longuement tout à l'heure, mais j'essaie de formuler peut-être votre rapport principal, Stéphane Audouin-Rouzeau. Il me semble que vous avez montré que les populations françaises et européennes, disons françaises pour pas faire trop large aujourd'hui, étaient prêtes à la guerre en 1914. Que les combattants n'étaient pas des victimes sacrifiées par les autorités politiques et militaires, qu'elles ont consenti à la guerre, puis à l'effort de guerre. Ensuite, il y a beaucoup de choses et beaucoup de ramifications, évidemment. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est peut-être l'apport principal, celui qu'on ne voyait pas, qu'on ne pensait pas encore comme ça, en tous les cas, au début des années 80, quand vous avez commencé?
D'abord, je voudrais dire que je n'ai pas l'impression d'avoir fait tout cela. En tout cas, je ne l'ai pas fait tout seul. Mais mon travail s'est inséré dans un effort collectif qui était celui du centre de recherche de l'historial de la Grande Guerre avec Jean-Jacques Becker, Gerd Krumach, Die Winter, Annette Becker.
Fondé en 92.
On est fin des années 80, début des années 90 effectivement, et c'est à ce moment-là que se forme un groupe qui évidemment c'est nos recherches se sont fécondées les unes les autres, et j'étais dans ce groupe le plus jeune et certainement pas le plus exercé dans le domaine donc j'aimerais bien que les choses soient de ce point de vue rétablies,
rendre aux autres César bien sûr, ce qui leur appartient,
notamment bien sûr à Jean-Jacques Becker
qui fut votre directeur de thèse,
j'ai plaisir à citer le nom ici. La deuxième chose, je crois que s'il y a une chose que j'ai apportée, mais on en reparlera peut-être plus tard, c'est une attention d'ordre plus anthropologique, donc à l'expérience de guerre. En particulier, à travers mon attention aux objets, et ça c'est l'apport central du travail muséographique, muséal, muséographique, qui a, disons, complètement transformé ma manière, et peut-être la manière d'autres aussi, je pense à Annette Becker, la manière d'envisager l'histoire de la Grande Guerre, et dans mon cas, l'histoire donc des combattants de la Grande Guerre. Alors maintenant, pour répondre plus directement à votre question, oui, je pense que les sociétés européennes, et notamment d'Europe occidentale, en 1914, mais dans une certaine mesure de 1914 à 1918, ont consenti donc à cette épreuve atroce, injustifiable, qu'a été la Première Guerre mondiale. Et après tout, ceci nous étonne peut-être moins aujourd'hui que nous avons sous les yeux, en Ukraine, une société qui consent, en tout cas pour l'instant, et depuis le début, consent absolument et unanimement à la guerre. Les sociétés belges, britanniques, françaises, allemandes, pour ne parler que de celles-là, ont consenti massivement à la guerre, tous les y préparaient. Notamment, évidemment, la construction des nations, depuis le 19e siècle, ces nations qui arrivent en quelque sorte à leur apogée au début du 20e siècle, avec des outils de socialisation d'une grande puissance, qui était l'école. L'école primaire obligatoire pour tous, dans des modalités différentes, mais globalement, ce sont des populations donc scolarisées, qui ont été scolarisées, alphabétisées, socialisées aussi par la lecture de masse, le journal en particulier, socialisées bien sûr, sauf au Royaume-Uni, par le service national, par le service militaire, qui est évidemment un puissant instrument d'intégration. Je pense à la France, bien sûr, je pense à l'Allemagne. Et les entrées en guerre montrent que les sociétés européennes, et là, il y a, je crois, aucune contestation possible, les entrées en guerre montrent l'aspect indiscutable de la guerre, donc pour ces Européens de l'Ouest, hein, surtout ceux qui justement avaient les constructions nationales avaient été les plus puissantes, les plus cohérentes, et la grande surprise et la grande tragédie de la Première Guerre mondiale, c'est que ce consentement initial, au fond, s'est maintenu dans le long terme. Il s'est maintenu dans le long terme, malgré évidemment des ruptures, hein, rupture de 1917 évidemment
avec
en France, rupture en Russie qui est le contre-exemple, hein, qui est le contre-exemple d'un pays où le consensus militaire en particulier se brise, hein, donc à partir de l'été 17. Mais rupture aussi en Allemagne, hein, notamment à la fin de la guerre. Bon. Maintenant, je pense que maintenant que j'y réfléchis à nouveau à travers votre question, à cette idée de consentement qui a provoqué beaucoup de polémiques historiennes, disons dans les années 2000, même des polémiques violentes, aujourd'hui en partie ou même très largement dépassées. Je pense qu'il manquait quelque chose dans cette proposition, parce que c'est une proposition, c'est un mot que, en passant, en quelque sorte, que nous avons écrit dans des articles ou un livre commun avec Annette Becker, en particulier Retrouver la guerre, hein, 14-18 Retrouver la guerre chez Gallimard, qui est paru
en 2000.
Voilà, c'est une formule, hein, et les formules sont toujours un peu trop rapides, un peu trop lapidaires. Il faudrait, voilà, c'est après coup, en fonction du succès ou de l'insuccès d'une formule, qu'on voudrait nuancer. S'il fallait que je nuance aujourd'hui, je nuancerais volontiers en disant qu'il manquait dans cette formule, dans la notion de culture de guerre aussi, hein, qu'on a proposée, qui a été également très critiquée, il manquait une réflexion sur le temps. Ce que nous avons beaucoup de mal à comprendre et que j'ai compris avec de manière très progressive, c'est que si nous voulons comprendre l'expérience des contemporains, il faut comprendre que le temps de la guerre, excusez-moi de le dire de manière aussi apparemment stupide, n'a rien à voir avec le temps de paix. Je veux dire par là que les acteurs sociaux, dès lors que la guerre est là, je parle de la vraie guerre, à partir de 1914, on est dans la vraie guerre. Les acteurs sociaux basculent, dès que la guerre est là, dans un temps autre, dans un temps irréductiblement différent, hein, du temps de paix. Un temps où leur perception des enjeux, leur perception des choses, leur réflexe, leurs sentiments, eh bien, se modifient. Il aurait fallu faire entrer cette question de la temporalité, c'est-à-dire le temps vécu, bien entendu, hein, le temps vécu, le temps expérimenté, le sentiment que l'on a du temps.
Le temps éprouvé.
Le temps éprouvé.
L'épreuve du temps. Ben.
Voilà. Il aurait fallu faire entrer cette question du temps dans cette proposition, en rappelant et en démontrant, ce qui n'est pas difficile, enfin pas si difficile, que si on veut comprendre le consentement des contemporains de la Grande Guerre, il faut d'abord en passer par le basculement de la temporalité. Ces contemporains ne sont plus dans le même temps qu'en 1913 ou même qu'en juillet 14. Et après 1918, la plupart d'entre eux, hein, reviendront dans un temps autre, dans un temps pacifié, au prix parfois d'une incompréhension de ce qu'ils avaient fait, écrit, pensé pendant le temps de la guerre. Et à ce moment-là, la proposition aura été plus complète et peut-être plus recevable.
Parce que c'est important de revenir un temps sur cette querelle d'historiens dont vous parlez, non pas parce que elle n'intéresse que les historiens, mais précisément parce que elle est passionnante du point de vue extérieur, Stéphane Audouin-Rouzeau. Quand on regarde les choses avec l'œil du non-spécialiste, du non-historien, et qu'on essaye de comprendre les deux positionnements, disons, c'est un peu ce que l'historien Antoine Pro a appelé les deux écoles, l'école du consentement d'un côté, donc représenté par vous, Annette Becker, Jean-Jacques Becker, et puis l'école dite de la contrainte, avec cette idée que les soldats avaient été contraints à la guerre, et c'est cette école-là a été a regroupé, disons, le collectif de recherche internationale et de débat sur la guerre de 14-18 de Craon, dans l'Aisne, fondé en 2006. Craon, c'est le haut lieu de l'offensive Nivelle, là où Lionel Jospin a fait un discours en 1998 visant à réintégrer les mutins des fusillés de 1917 dans la mémoire nationale. Et ce collectif était réuni autour de Rémi Casals, Nicolas Offenstadt, avec son livre Le chemin des dames notamment, ou encore Frédéric Rousseau. Voilà, il y avait deux écoles, donc Perron et Craon. Est-ce que, d'un point de vue vraiment très pédagogique, j'ai envie de dire, hein, vous nous donneriez donc les tenants et les aboutissants de cette querelle pour que les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas suivi cette histoire-là comprennent bien de quoi il s'agissait?
Alors oui, c'est une querelle qui a duré, disons, une grosse décennie. Elle s'est vraiment, elle était latente avant, mais elle s'est vraiment cristallisée après l'apparition de ce livre publié avec Annette Becker, 14-18, Retrouver la guerre, en 2000, chez Gallimard, Bibliothèque des histoires. Vous voyez, c'est ce genre de livre qui, généralement, ne passe pas inaperçu. Celui-là n'est pas passé inaperçu du tout. Et il a ulcéré un certain nombre de collègues historiens de la Grande Guerre, parfois d'ailleurs de collègues historiens qui n'étaient pas historien de la Grande Guerre, mais qui était ulcéré quand même par cette proposition autour de la culture de guerre
et la brutalisation,
brutalisation des sociétés européennes par la guerre et cette question du consentement qui, à dire vrai, ne se trouvait que dans un chapitre du livre, hein, qui en comportait trois. Il y en avait un premier sur la violence de la guerre qui n'était pas tellement contestable, hein, où on disait finalement que la violence de guerre avait été sous-estimée. Et donc il fallait donc revenir à cette violence de champ de bataille, mais violence aussi contre les populations civiles, les atrocités, hein, d'invasion, la dureté, hein, des occupations. Le troisième chapitre sur le deuil, qui était au fond le pendant de ce chapitre sur la violence, était également difficilement contestable, où on montrait la profondeur, hein, du deuil des sociétés européennes, deuil collectif mais aussi deuil personnel. C'était la première fois, hein, que le deuil personnel, la souffrance individuelle des familles était mise en avant. Et c'est le chapitre central, intitulé avec beaucoup de provocation La Croisade, qui a été vraiment le détonateur de la Camille feu aux poudres, hein, cette croisade, hein, où justement on parlait, hein, on essayait de mettre en avant cette culture de guerre, on en montrait la dimension, disons, d'unanimité, hein, de large unanimité, et que l'on évoquait cette question du consentement. On y ajoutait d'ailleurs la dimension religieuse, hein, religieuse, hein, de ce consentement qui était l'apport particulier d'Annette Becker. C'est ça, au fond, hein, qui a été le détonateur.
Que disait-il en face?
Alors, en face, on est souvent très mauvais, hein, pour dire ce que ceux d'en face ont présenté.
Vous aider en essayant d'expliquer ce que j'ai compris, mais je vous laisse d'abord.
Alors, ce que je dirais, c'est que, au fond, d'abord, cette idée d'une unanimité sociale autour d'un consentement à la guerre ne passait pas pour des raisons, à mon avis, qui sont restées assez largement cachées, mais qui sont souvent, là encore, les plus importantes, pour des raisons assez largement idéologiques. Hein, je dirais qu'il y avait là toute une tradition de pacifisme, indiscutablement, d'antimilitarisme, qui remontait aux années 20 et aux années 30, hein, et qui existe toujours, hein, aujourd'hui. Voilà, avec cette idée que dire, au fond, que les sociétés européennes avaient soutenu, en quelque sorte, la guerre qu'elles avaient faite, tout en souffrant atrocement, bien entendu. Mais cette idée, hein, que les sociétés avaient consenti, et que ce consentement avait été finalement la raison principale de la prolongation de la guerre, était intolérable. Au fond, s'il y avait
effacer la complexité sociologique, en fait, d'homogénéiser la société.
Or, justement,
et de ne voir qu'un côté, voilà, souvent donc, élite bourgeoise contre, voilà, témoignage populaire.
D'où cette critique que notre histoire n'était pas assez sociale, qui a été trop culturelle et pas assez sociale, qu'on avait remplacé en quelque sorte l'étude du social par une vision culturaliste de la guerre, ce que suggère un peu la notion de culture de guerre, qui effectivement suggère une forme d'homogénéité autour d'un corpus de représentation de la guerre. Donc pas assez social, donc cette vision pas assez sociale ne faisait pas assez la part de la domination, de la domination sociale.
D'où l'idée de contrainte.
Voilà, d'où l'idée que c'est sans la contrainte, contrainte multiforme d'ailleurs, sans la contrainte, sans la discipline, sans etc. Eh bien, cette extraordinaire résistance des sociétés européennes dans le long terme de la guerre, eh bien, n'était pas donc envisageable.
Parce qu'au fond, la vraie question qui se pose, d'ailleurs toujours, c'est qu'est-ce qui a fait tenir ces hommes pendant 4 ans,
Stéphane Barroso. C'est la question pour toujours. C'est une question pour toujours. Nous continuerons sans doute à nous les poser, puisque une grande partie des questions historiques ne sont reposées à nouveau frais en fonction de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui en Europe avec la guerre d'Ukraine nous forcera, ou nous force déjà peut-être, à reposer certaines questions à notre passé, et notamment précisément à la Grande Guerre, d'autant plus que la guerre d'Ukraine a beaucoup de traits qui font penser à la Première Guerre mondiale. Mais enfin, je suppose qu'on en parlera plus tard. C'est là qu'est la difficulté centrale. Qu'est-ce qui a fait tenir Je pense personnellement, et je suis peut-être en tort, mais je pense personnellement que en temps de guerre, j'insiste sur le mot « temps », des groupes sociaux tout à fait différents, des individus qui, en temps de paix, ne se seraient sans doute jamais rencontrés, peuvent éprouver, ressentir, se représenter le réel de manière comparable. Et en particulier, par exemple, se représenter le sens de la guerre, sens très simple, défendre le sol, ne pas le laisser à l'ennemi, se représenter l'ennemi, l'autre, celui qui vous menace, qui a brisé la vie de tous, qui occupe, qui détruit, qui bombarde, etc., se le représenter de manière comparable. Et je prétends qu'un soldat paysan, un soldat ouvrier ou un soldat issu de la bourgeoisie peuvent, tout en l'exprimant de manière tout à fait différente, avec des moyens tout à fait différents, eh bien peuvent, au fond, se trouver en accord sur un corpus de représentation qui leur est commun. Après cela, on ne peut plus rien dire. C'est une vision de la société. Est-ce que nous avons une vision, c'est des visions de la société qui s'affrontent. Est-ce que finalement les groupes sociaux sont l'alpha et l'oméga d'une société, et en l'occurrence d'une nation, en 1914-1918, ou bien il y a des fils horizontaux qui relient ces groupes sociaux, éventuellement à leur insu d'ailleurs, et qui font que, notamment au début du XXe siècle, une nation est une nation. Je suis partisan de cette deuxième lecture, et vous l'avez compris, et hostile à la première. Mais on pourrait en discuter ensuite, pendant des heures et des heures, sans arriver à conclure.
Non, en tout cas, la querelle des historiens a pris fin au moment du centenaire et de sa mission. C'était entre 2014 et 2018, 2018, fin de cette mission du centenaire, qui a, en tous les cas, contraint, pour reprendre le terme, tout le monde à travailler ensemble.
Oui, c'était cette querelle des historiens, ça a été la grande querelle, il n'y en avait pas d'autre. Donc évidemment, elle était très en avant, puisqu'il n'y en avait pas d'autre, à se mettre sous la dent, si je puis dire. Et donc, le centenaire a commencé en 2014, mais en fait, il est annoncé par le président de la République de l'époque, François Hollande, dès la fin 2013. Et les historiens, eux, commencent à travailler encore avant, dès 2011-2012. C'est avant même c'était d'ailleurs sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy que la mission du centenaire, en fait, commence
mise
son
en
travail.
Place.
Donc, en fait, pour nous, les historiens, ce centenaire, il a duré 10 ans. Et effectivement, eh bien, il y avait un conseil scientifique qui s'est formé donc à l'initiative donc de la mission du Santerre, qui était dirigée d'ailleurs de manière assez remarquable par Joseph Zimet. Et nous sommes donc retrouvés entre historiens qui avaient énormément polémiqué, hein, qui ne se parlaient pas ou très peu. Et les premiers contacts, très curieusement, ont été beaucoup plus faciles qu'attendus. Et ils se sont produits à l'emplacement qui était théoriquement le pire, qui était la question des fusillés pour l'exemple, qui était vraiment l'abcès qui pouvait nous opposer. Curieusement, sous la direction d'Antoine Pro, nous avons remis à l'État un rapport sur cette question, sur la question de quoi faire avec les fusillés pour exemple. Est-ce que les fusillés pour exemple, c'était la grande angoisse au début du centenaire? Est-ce que les fusillés pour exemple seraient la Vendée, ce qu'avait été la Vendée pour le bicentenaire de la Révolution française? Et est-ce que cette question allait pourrir les années de centenaire que l'on avait devant nous? Eh bien, pas du tout. Nous avons fait un rapport pour lequel nous étions tous sur la même ligne, disant que voilà, on a vraiment d'abord décrit ce phénomène des fusillés pour l'exemple, et on s'est accordé pour dire que une réhabilitation au sens juridique du terme n'était pas possible, etc., que seules des réhabilitations symboliques d'ordre moral étaient envisageables. Bref, on s'est rendu compte que sur ce sujet qui aurait pu être extrêmement clivant, eh bien, nous pouvions travailler ensemble et nous avons travaillé en assez bonne intelligence. Et nous avons, en fait, c'est à partir de ce moment-là, et c'est une chose dont je me suis expliqué personnellement assez longuement avec Nicolas Hoffenstadt, lui-même et moi en particulier, je crois, étions lassés par cette polémique. Nous percevions qu'elle était en train de s'institutionnaliser et qu'on était entré dans la zone des rendements décroissants. Parce qu'une polémique historienne, dans un premier temps, pousse les deux camps à affûter les arguments. Donc c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et puis il y a un moment où une fois que les arguments sont affûtés et sont en place, eh bien il y a une sorte de cristallisation de la polémique qui n'évolue plus. Et en plus, les chercheurs peuvent se sentir obligés de choisir un camp contre un autre. Enfin, tout ça est absolument une véritable catastrophe sur le plan intellectuel. Et je pense que Nicolas Hoffenstadt et moi-même l'avons senti. Et on s'est parlé. On a fait le bilan des désaccords et éventuellement des accords. Et on a très largement mis fin. Donc à cette querelle des historiens, elle est encore présente, latente, etc. Mais enfin, elle a perdu. Hein, elle a perdu son acuité. Je pense qu'elle ne renaîtra pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, elle a bien montré que la guerre de 14 était encore vivante, comme le montre, et vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphane Audouin-Rouzeau, le nombre de romans, le nombre de films, le nombre de pièces de théâtre qui ont paru depuis les années 80 à propos de la Grande Guerre. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Nous changerons complètement de sujet.
À demain.
À demain. C'était À Voix Nue, attaché de production Daphné Abgral, prise de son Loïc Duros, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.